Bonjour à chacun de vous. Je me demandais en écoutant ce matin, en participant à cette louange, où j'ai volontairement économisé ma voix pour qu'elle tienne pour le message, je me disais, je vais un peu plomber l'atmosphère là. Ça ne va pas aller du tout. Et puis non, pas du tout, du tout, du tout. Au contraire, et ce dernier chant est vraiment révélateur de ce que Dieu peut, faire, c'est-à-dire apporter juste ce qu'il faut dans la louange pour le message. J'aimerais apporter la deuxième partie du message sur les épreuves, justement. Alors, ce n'est pas l'épreuve de gratter le carreau de la voiture. Enfin, moi, je ne le gratte pas, j'ai de la chance. Mais ma voisine, c'est vrai, tous les matins, elle doit gratter. C'est un petit peu pénible. Il y a un mois, juste, je vous ai apporté la première partie sur les épreuves, où on a parlé du pourquoi, du comment des épreuves. Et puis, vous avez laissé ce verset qui était important, 1 Pierre 4, verset 12. Pierre là, s'adresse. Attends, Clément, juste un petit peu, s'il te plaît. Voilà, excuse-moi. Ce verset s'adresse aux chrétiens, à l'étranger, c'est marqué. À nous, directement. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. C'était dur, c'était fort. Et puis, je me suis dit, je vais commencer par rappeler les choses, faire un petit rappel de ce que j'ai dit la dernière fois. Et à ce moment-là, c'était lundi, à ce moment-là, on a eu un appel de Pierrick et Lydia, qui venaient d'arriver à Sao Paulo pour rejoindre le Paraguay, et qui venaient d'apprendre une terrible nouvelle, c'est-à-dire que le petit frère de Lydia avait été victime d'un très grave accident de cheval et qu'il était entre la vie et la mort à l'hôpital. Et je me suis dit, mais tu vas où avec ton culte? Tu vas où? Et ça m'a vraiment brassé dans le sens de retrouver justement ce qu'on a chanté dans ces derniers chants, se retourner vers Dieu et rester vers Dieu. Alors je vais poursuivre tout à fait normalement et je vous donnerai des nouvelles de Thiago un peu plus tard. Clément, on peut y aller si tu veux. Voilà, donc la dernière fois, on a parlé de pourquoi et comment. Et juste faire un petit résumé. Un premier point important était, qu'on avait laissé, qu'il ne fallait pas relier épreuve, tentation avec foi ou santé spirituelle, dans un lien de cause à effet. Dans l'autre sens, on ne peut pas non plus entrer dans un mode systématique d'évangile de la prospérité à l'extrême, liant sans autre notre bonne santé à notre foi. Il existe des bénédictions ponctuelles et des épreuves spécifiques envoyées pour justement nous enseigner et nous équiper. Mais on ne peut pas établir comme théorème définitif qu'une personne passe par une grosse épreuve parce qu'elle n'a pas assez de foi. Relisez le livre de Job. Ni mesurer le niveau de la foi de notre voisin au regard des épreuves qu'il subit, ou déclarer que c'est le résultat de son péché. La seule attitude du chrétien par rapport à son voisin, à son frère ou à sa sœur qui est dans une épreuve, c'est l'accueil, la compassion et la prière, d'abord. Voilà. Alors, reprendre les points précis. Le premier point important, c'est que Dieu a le contrôle sur nos épreuves. Dieu a le contrôle sur nos épreuves. Lui sait où il veut nous emmener. Deuxième point, c'est que l'épreuve et ses conséquences font partie de la pédagogie de Dieu. De la pédagogie de Dieu, je dis bien, pour nous enseigner. Troisième point, l'épreuve est donc nécessaire, normale, bénéfique. Oui, on a parlé de joie ce matin, difficile, mais sachons que l'épreuve est bénéfique. Un quatrième point, l'épreuve est également libératrice du péché. En ce qu'elle nous rappelle qu'au bout du compte, le péché était racheté, mais non pas par notre foi dans l'épreuve, par le sacrifice de Jésus-Christ lui-même qui a vaincu la mort et le péché. Un autre point, l'épreuve est donc utilisée par Dieu pour nous affermir dans notre foi et nous conduire dans notre foi. Et puis, un dernier point qu'on avait dit la dernière fois, Dieu nous donne de multiples ressources pour faire face à la tentation. Veillez et priez. Juste un verset d'Ésaïe, avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'il m'invoque, c'est dire si Dieu est au courant de ce qu'on lui demandait. Avant qu'il m'invoque, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, vous savez ce qu'il y a derrière? C'est qui connaît la suite de ce verset? Avant qu'ils aient cessé de parler, nous, dans la prière, j'exaucerai. C'est juste incroyable. Je lis le verset. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de prier, j'exaucerai. Veiller, prier, se soumettre à Dieu, et donc résister aux tentateurs, refuser Satan. Et puis, un point important quand même, être digne nous-mêmes de la confiance que Dieu nous fait, et c'est dur à comprendre, en nous envoyant ces épreuves. Là sont les clés de notre compréhension des épreuves que nous vivons. Et c'est une vraie philosophie de vie que Dieu désire mettre en nous, face à l'épreuve et face à la difficulté. Et personne ne peut être indifférent à ça. On a tous des épreuves et tous des difficultés dans notre vie. Chacun à notre niveau. Certains beaucoup plus que d'autres. On a tous des épreuves et des difficultés. Alors, Dieu ne veut pas faire de l'épreuve quelque chose, nous donner quelque chose qui nous ferait survoler l'épreuve, vous savez, en nous la rendant insensible. Non. Mais une façon de l'aborder qui nous la fait lire avec ses lunettes à lui. Pas avec les nôtres, pas avec nos yeux à nous. Et comprendre les promesses qu'il y a derrière. Vous savez, dans les jeux vidéo, on a des bonus. Enfin, moi, je ne joue pas aux jeux vidéo, mais je sais qu'on a des bonus. Les épreuves qui viennent derrière, ou les petits trucs, non, immuniser tout. C'est pas ce que Dieu veut. Dieu n'a jamais dit qu'il nous immuniserait. Non, du tout. Mais il veut nous former par ces épreuves. Et ça bouscule peut-être notre façon de concevoir notre relation avec Dieu. Peut-être ça la bouscule totalement. Mais ça doit bousculer aussi, et ça va bousculer aussi, notre entourage, nos relations avec notre entourage, notre prochain et le monde qui nous entoure. Il est vrai que tout homme ou toute femme, et chacun de nous ici, peut se dire que si Dieu avait simplement pu éliminer les épreuves pour tous ses enfants, les en protéger, les garantir, leur éviter la souffrance, la maladie, qu'est-ce que ça serait bien? Pourquoi Dieu ne nous évite-t-il pas simplement l'épreuve? Je me disais, si Dieu nous dit, il y a l'épreuve mais il y a les promesses, pourquoi est-ce qu'il met l'épreuve? Il pourrait s'économiser les promesses, en fait. Simplement, on enlève deux choses et c'est plus simple la vie. Mais soyons honnêtes envers nous-mêmes et envers Dieu. Est-ce que nous ne limitons pas Dieu seulement, bien souvent, à un recours quand cela va mal dans notre vie? Et là, nous l'appelons au secours. Est-ce que lorsque ça va mieux, ou lorsque tout va pour le mieux dans notre vie, tranquille, est-ce qu'on n'a pas la fâcheuse tendance à laisser Dieu de côté puis à l'oublier? Ou à oublier que le bonheur vient aussi de lui, dépend de lui, pas de nous, mais de lui. Ou en s'exprimant autrement, au moment de l'épreuve, dire « Mais pourquoi Dieu permet ça? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que ?» Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour que? Et pourquoi ne pas avoir la même démarche dans les moments où nous sommes bien dans notre vie? Pourquoi Dieu permet ça aussi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça aussi? Notre esprit est souvent faible. Oui, nous sommes rachetés. Oui, nous sommes rachetés. Nous sommes des pécheurs rachetés. Mais Dieu nous connaît, Dieu connaît notre foi, il sait que notre foi pour vivre nécessite vraiment d'être aiguisée, d'être attisée, d'être remise en question. On a cité verset de Philippiens 4:4 que j'avais aussi là, mais je vous citerai un autre verset que j'apprécie beaucoup qui est dans la lettre de Paul aux Hébreux 13 verset 5, « Contentez-vous de ce que vous avez ». C'est valable pour ceux qui n'ont rien. Pour ceux qui ont peu, mais pour ceux qui ont plus aussi. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne vous délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Il n'a pas dit dans certains moments, il a dit, je ne te délaisserai pas. Ainsi, Dieu nous rappelle qu'il est présent avec nous et en nous, au jour de l'épreuve et qu'à travers de celle-ci, nous recevons de lui énormément en retour. Et c'est ce que j'aimerais voir aujourd'hui avec vous. La première chose, la première promesse qui nous intéresse, qui intéresse Dieu et nous-mêmes, est qu'en fin de compte, l'épreuve va procurer en nous quelque chose d'énorme. La Bible nous dit une foi inébranlable. Inébranlable. 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, donc ce Dieu qui nous a élus, après que vous avez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, rendra votre foi inébranlable. Est-ce qu'on croit ça au fond de nous? Mais au moment où ça va pas, comme au moment où ça va, est-ce qu'on croit ça au fond de nous? C'est pas facile. C'est pas facile, non. Cela peut nous paraître bien insignifiant, peut-être, lointain. Mais cela découle de notre confiance en Dieu, de notre foi. Combien de fois, j'ai le mot foi, c'est pas le même celui-là, combien nous sommes admiratifs souvent et disons-nous, en pensant à des personnes persécutées par exemple, mais comment ils font en pensant à leur action de foi, mais comment ils font, je ne sais pas comment je tiendrai à leur place. Et si ça m'arrivait à moi, cette épreuve si forte. Eh bien, la réponse est dans ce verset. Il nous affermira, il nous fortifiera, il rendra notre foi inébranlable. C'est-à-dire de résister à tout, ni plus, ni moins. Et ça, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous sommes. Et ça, c'est une promesse pour la vie. Et quelle vie? Pour la vie avec Dieu. Un deuxième point, on l'a déjà abordé ce matin, c'est la joie. C'est vrai, ça, on ne comprend pas. Dieu ne peut pas nous envoyer des épreuves et nous demander de les accueillir avec joie. Mais réfléchissons un instant. Dieu ne nous demande pas de sauter au plafond. Parce qu'on a reçu une épreuve, youpi. Ben non. Il veut simplement nous dire que ces épreuves nous font prendre part aux souffrances du Christ, avec comme point de mire la joie et l'allégresse de son retour. Nous participons aussi, par nos épreuves, aux souffrances du Christ. C'est-à-dire qu'au jour de l'épreuve, il nous demande de faire cette démarche, j'hésitais à dire le mot effort, parce que ça ne doit pas être un effort, mais cette démarche de regarder au-delà. Vous savez, on dit que quand on est le nez dans le guidon, on ne va pas plus loin. C'est ça, c'est ce que Dieu veut nous montrer. Regarde devant toi. Tu as un passé, tu as un présent, tu as un avenir avec moi. Regarde devant toi. Donc regardez plus loin, et pour l'immédiat, pour l'épreuve qui est vécue en ce moment, regardez plus loin pour une sorte de plus qui nous arrive, et qui nous fait dire, ben oui, en faisant cette confiance à Dieu, je suis dans son plan. Après tout, chiche, je fais le pas d'être dans son plan. 1 Pierre 1, verset 13. On l'a critiqué, Pierre, hein, qui n'est pas de foi, qui est celui qui a vernié le Christ. 1 Pierre 1, verset 13. « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances du Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Je suis d'accord avec vous, c'est difficile à comprendre et à accepter, bien plus encore. Mais il y a bien des versets que nous prononçons toujours très facilement et que nous affirmons aussi comme base de principe de notre foi, et que nous devons nous rappeler, nous souvenir au moment de l'épreuve. On dit toujours que le psaume 37,5, c'est la bonne température du chrétien. 37,5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel. C'est ce qu'on nous demande. C'est ce que Dieu nous demande. Pas si ça va bien, recommande ton sort à l'Éternel. Non, recommande ton sort à l'Éternel. Il n'y a pas de jour bien ou de jour mauvais dans ce passage. Philippiens 4, 6, deux versets après. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est pas je garde aussi un bout d'inquiétude pour moi. Non, je peux tout poser au pied de la croix. Tout poser au pied de la croix. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. C'est-à-dire, tournons-nous vers Dieu. C'est ce que nous disait ce dernier chant. Tournons-nous vers Dieu et posons-nous devant lui justement si ça va mal. Quand ça va bien, mais justement aussi quand ça va mal. Et Dieu est là pour entendre nos prières ou nos supplications. Il y a marqué le mot supplication, c'est-à-dire, on peut insister, hein. Il n'y a pas de souci. On ne va pas le déranger. Ça ne va pas sonner occupé. Dieu sera toujours présent à ce moment-là. Alors ces versets ne seraient-ils valables qu'à certains moments de notre vie? C'est-à-dire pour les dire comme un conseil à quelqu'un, mais quand l'épreuve nous arrive, acceptons qu'on a aussi du mal à les vivre souvent, et que notre foi aussi, au travers de l'épreuve, est remise en question tout simplement. Dieu nous aime et Dieu ne cesse pas de nous rappeler en nous invitant à lui faire toute confiance, en toute chose, en toute circonstance qu'il va placer devant nous, qu'elle soit agréable ou non. Après, comme je l'ai dit, c'est vrai, il y a des gens qui sont particulièrement chargés par des épreuves, et d'autres moins, mais ça c'est le mystère de Dieu et de la vie qu'il donne, et ça nous n'y pouvons rien, et nous avons à partager ces choses. Si un souffre, le corps entier souffre. Et nous avons vraiment à partager ces choses. À les partager dans la prière, dans l'accueil, dans l'amour. Un Pierre, encore Pierre. C'est vraiment intéressant les épîtres de Pierre. Hein. 1 Pierre 5, verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. De tous vos soucis. Car lui-même prend soin de vous. C'est lui qui prend soin de nous. Il est important de nous laisser à la fois garder, guider, mais aussi interpeller par Dieu tout au long de notre vie. C'est un lieu de relation et d'amour. Dieu veut des enfants qui lui parlent, qui entrent dans cette relation. Le fait d'être chrétien, c'est le fait d'avoir pu, grâce à Dieu et au sacrifice du Christ, renouer cette relation. Si on a des relations et qu'on ne les entretient pas, si on a des amis et qu'on ne leur parle pas, et qu'on ne les voit pas, ils ne vont peut-être pas rester longtemps amis. Hein. Mais Dieu veut cette relation avec nous. Dieu nous aime, c'est notre Père, une relation de Père à Fils, et il a besoin de cette relation avec nous. Il nous a créés pour cela, pour entrer en relation avec nous. Genèse, début de la Bible, à l'autre bout. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Laissons-nous étonner par ce que Dieu peut faire pour nous. C'est au début du livre de la Genèse, ça. Et toute la suite de l'histoire du peuple vient là derrière. Alors Dieu, par amour, nous appelle sans cesse à réfléchir où est véritablement le bonheur. Le bonheur, notre bonheur. Et nous rappelle que les promesses qu'il fait sont pour aujourd'hui déjà. D'abord pour aujourd'hui. Et dans le verset suivant, Pierre parle au présent. Ça veut dire qu'il est actif déjà pour maintenant. Et ce verset dit la chose suivante, toujours dans Pierre, 1 Pierre 4, verset 14, « Si vous êtes outragés pour le nom du Christ, vous êtes heureux. » Vous êtes maintenant, c'est-à-dire que vous avez déjà en vous, par moi, ce bonheur qui va venir, cette situation intérieure. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Est-ce que vous vous rendez compte de cette bénédiction? Si vous êtes outragé, ça veut dire si on vous raille parce que vous allez à l'église, par exemple, mais mettez derrière tout ce qui peut vous, vous sentir pesant ou outrageant simplement une fois parce que vous avez peut-être témoigné ou dit quelque chose à quelqu'un, ou parce qu'on vous a fait une remarque, ou parce que vous avez vu des dispositions qui vous, ou entendu quelqu'un à la télé qui prenait une position qui vous blessait, que vous ne compreniez pas. Vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Et quand Dieu nous invite à être heureux, bien entendu, on pense tout de suite au passage de Matthieu 5, le texte des Béatitudes. Et on va l'afficher, parce qu'il est important ce texte. On le lit ensemble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux, est à eux. Vous connaissez ce texte. Mais ce texte, il reprend toutes les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver. Toutes les situations qui nous sont proposées ici sont des situations où l'homme a eu à souffrir, notamment par manque, par souffrance physique, par persécution. Et Dieu nous considère comme bénis si nous sommes dans cette situation. Ça veut dire qu'à tout moment de notre vie, nous allons trouver un endroit où Dieu nous bénit, dans chaque situation de notre vie. Oui, c'est pas facile à gober peut-être, quand on est dans la détresse. Mais rappelons-nous cette affirmation de Dieu. Heureux. Il y a encore à la suite de ce passage, encore des mots heureux. Et la suite de ce passage, c'est vous qui êtes heureux. Vous êtes le sel de la terre. Et c'est vous qui pouvez apporter quelque chose à ce monde. Donc, cette bénédiction qui vient, elle est pour nous, mais elle n'est pas que pour nous. Et on a un engagement vis-à-vis de Dieu. C'est pour cela que ces versets commencent par « heureux ». Heureux êtes-vous. Quelle chance vous avez maintenant. Mais regardez au bout de chaque ligne ce qui est proposé à chacun pour demain. Le pauvre en esprit, celui qui aura peut-être été, je l'ai déjà dit tout à l'heure, raillé, rejeté, toute sa vie par la société comme un moins que rien, celui-là devient héritier du royaume de Dieu. Pas de souci pour la retraite. Héritier du royaume de Dieu. Simplement. Les affligés, deuxième verset, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur chair, qui ploient, mais restent fidèles, recevront la consolation. C'est un mot tout bête, la consolation, mais c'est la consolation de Dieu. C'est la consolation de Dieu. Seront consolés par Dieu. C'est-à-dire que les larmes qui coulent peut-être, c'est Dieu qui les essuiera. C'est Dieu qui pose sa main sur l'épaule, qui permet de poser la tête sur l'épaule et qui dit « Je t'aime, je prends soin de toi. » Simplement. Et ça, c'est quelque chose de fort, la consolation de Dieu. Les débonnaires, un mot qui nous est un petit peu étranger, ceux qui s'en remettent à Dieu en toutes choses, simplement, qui croient en Dieu, simplement, qui sont considérés par notre société où l'homme doit être fort, costaud, tué pour avancer. Non, les débonnaires sont des gens qui, au contraire, ont pris le parti d'être faibles, comme des enfants, parce que Dieu demande d'être faible, et c'est là que nous sommes forts. Ces débonnaires, ils hériteront la terre. Dieu leur donnera tout. Ceux qui ont faim et soif de justice. Comprenons, dans ce sens-là, tous ceux qui souffrent de l'injustice, qui sont persécutés par l'inégalité, par la corruption, par le mensonge, par la délation, privés de leurs droits, abusés de leurs droits ou de leurs biens. Dieu va les rassasier. Les rassasier, vous savez ce que c'est être rassasié ? Ça veut dire qu'il va leur donner, dans leur manque, tout ce dont ils ont manqué. Il va ôter tous ces manques. Il y a d'autres encore de ces versets qu'on pourrait étudier, mais ces sentences donné par Jésus lui-même nous semble se résumer en une seule qui nous parle de ceux qui ont le cœur pur au-delà de cette situation. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est ce que Job disait. Mon oreille avait entendu parler de toi. Et Job, s'il y en a un qui peut parler de la souffrance, mon oreille avait entendu parler de toi. Il a tout perdu, Job, tout perdu. Sa famille, ses biens, il est tout seul, il n'a plus rien. Et il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. L'ultime, voir Dieu face à face. C'est ainsi, ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. C'est-à-dire que dès à présent, ils ont la certitude d'être du voyage lorsque le Christ reviendra pour chercher tous les siens. Il y a un vieux gospel noir américain que j'ai chanté il y a longtemps, qui s'intitule « The Gospel Train is Coming ». Je ne sais pas si vous connaissez ce chant, mais c'est un chant qui compare la venue du Christ, le retour du Christ et le départ des croyants au train de l'Évangile. C'est un de ces vieux trains qui fument, vous voyez, genre western, là, qui arrive de nulle part dans le désert, qui arrive, j'arrive pas, mais il siffle là, ok, il arrive à la gare et ce train, il est conduit par le Christ. Alors le gospel nous dit, la sirène sonne, les freins crissent, le train s'arrête et le chant nous répète sans arrêt, monte à bord, monte à bord, monte à bord, il y a de la place pour toi, monte à bord, mais attention, il n'y a plus d'autres trains sur la ligne. C'est le dernier. Il n'y en a plus. Ça, c'est le train de l'Évangile qui passe et qui nous prend avec, simplement. Quel encouragement à vivre avec Dieu jour après jour, avec la même joie de se savoir sauvé, quelles que soient les circonstances. Apocalypse 2, à l'autre bout de la Bible, c'est dire si la Bible d'un bout à l'autre nous suit. Apocalypse 2, verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de la vie. » Job, toujours Job, certainement la personne... Lisez le livre de Job, la personne la plus soumise à l'épreuve, à la tentation, au malheur, à la persécution, dira cette phrase magnifique qui ne peut que nous interpeller. « Pour moi, j'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Retour vers Dieu. « J'aurai recours à Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » L'épreuve de notre foi produit un témoignage qui glorifie Dieu. Mais aussi, soyons-en certains, un signe très fort envers les autres, envers ceux qui nous entourent, envers le monde, et permet ainsi aussi à l'Évangile de se répandre et de s'ancrer dans le cœur de ceux qui souffrent à leur tour. Et c'est important, le témoignage qui sort de notre vie lors de l'épreuve, c'est important, ça nous marque et ça marque les personnes. 1 Pierre 4, toujours, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien et qu'il n'en a point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, ainsi ceux qui souffrent, selon la volonté de Dieu, remettent leurs âmes au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Il y a un espèce d'enchaînement de boules de neige qui fait que notre façon de vivre l'épreuve est aussi un témoignage pour ceux qui nous entourent. Alors j'aimerais rapidement conclure en rappelant les points suivants. Il ne servirait à rien du tout de lire les promesses de Dieu simplement, seulement de les lire. Il nous faut les écouter, les entendre, c'est-à-dire les laisser pénétrer au-dedans de nous, les méditer, les recevoir, mais au plus intime, au plus profond de notre être. Et surtout, il faut c'est bête ce mot, mais les mettre en pratique. À quoi ça servirait que Dieu nous enseigne si on ne le mettait pas en pratique? Les vivre au quotidien. Ces promesses ne sont pas des choses floues et réservées à un avenir lointain. Le jour où le Christ reviendra, vous serez heureux. En attendant, je fais comment tous les jours? Non, non. Elles sont à disposition maintenant en kit, prêtes à consommer. C'est du tout prêt. Il n'y a même pas à mettre de l'eau dedans pour réchauffer. C'est tout prêt. Et elles sont d'abord, et d'abord pour maintenant et pour chacun de nous. Elles nous intéressent chacun en particulier. Dans ce monde où les tentations sont légion, où l'épreuve se présente à chaque instant, sous toutes ses formes, rappelons-nous où mettre nos valeurs et en qui remettre notre confiance. Paul écrivait aux Romains cette phrase, « Que dirons-nous à l'égard de ces choses ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? » Au moment où l'épreuve nous touche, osons témoigner de notre foi, nous confier à notre Sauveur. Il nous écoutera, il nous écoute, il nous entendra. Et soyons sans crainte, il nous répondra. Psaume 116, verset 1, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi. Résultat, je l'invoquerai toute ma vie. » Parce que le « toute ma vie » se conjugue ici avec Dieu, et non pas tout seul. Et concernant son retour, le retour du Christ qui nous est aussi apporté comme promesse, et ses bénédictions qui nous sont aussi apportées au-delà de l'épreuve comme promesse le jour de son retour, gardons en mémoire les paroles du dernier livre de la Bible, qui ne doit en aucun cas être un livre, l'Apocalypse, qui doit nous effrayer. Ce n'est pas du tout un livre à lire comme ça en ayant peur, en ayant une peur bleue. Non, bien au contraire, c'est un livre qui révèle l'espoir de Dieu et ce qu'il va nous apporter. Mais il nous permettra un jour d'aspirer et d'y aspirer en toute sérénité. Ce sera le dernier verset que j'aimerais vous laisser, qui est un encouragement pour chacun de nous. Apocalypse 3, verset 10. C'est un mot que le Christ veut donner à une église spécifique. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de l'épreuve et de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Amen. Je vous invite à un petit temps de silence et si une ou deux personnes veulent prier, qu'elles le fassent tout à fait librement. Seigneur, j'aimerais te remercier pour les enseignements que nous trouvons dans ta parole. Or, nous ne te demandons pas, Seigneur, de nous envoyer des épreuves juste pour le plaisir de voir si on a la foi. Mais je te prie pour tous ceux qui passent par l'épreuve, tous nos frères et sœurs qui passent par l'épreuve, que tu puisses leur donner le réconfort et la confiance en toi. Je te prie aussi pour ceux qui te cherchent ou qui ne te connaissent pas et qui passent aussi par l'épreuve, Seigneur, et qu'ils puissent peut-être au travers d'un témoignage, d'un mot de sympathie, d'un encouragement que nous pourrions leur faire, qu'ils puissent se tourner vraiment vers toi et trouver la vie en toi. Et je te remercie parce que tu es un Dieu de vie. Nous allons fêter Noël, l'anniversaire de ta venue. Et c'est vrai que nous sommes, comme disait Thibault, dans une course un petit peu effrénée les uns les autres. Seigneur, aide-nous à faire la part des choses et à penser aussi pendant ce temps à tous ceux qui souffrent et qui ont besoin d'avoir ta consolation. Aide-nous, Seigneur, à être les uns les autres des instruments de paix et de consolation pour tous ceux qui souffrent. Nous te les remettons, Seigneur, et nous voulons vraiment te prier que tu poses ta main sur chacun. Amen. J'en arrive aux annonces, et il y a beaucoup de choses dans les annonces encore cette semaine. Les activités de la semaine d'abord. Lundi, demain, conseil d'anciens à 19h30, jeudi parcours baptême à 20h. Je voudrais juste redire que on a commencé, c'est la troisième et dernière soirée du parcours baptême, mais si quelqu'un voulait se joindre à nous pour faut venir voir simplement, on peut venir discuter ou se remettre dans le circuit. Il n'y a aucun problème, on est un petit groupe sympa et on veut partager aussi ça. C'est donc jeudi et c'est à 20h ici. Samedi, groupe de jeunes, dimanche prochain, notre culte. J'aimerais donner deux informations encore quant à la soirée du 23 décembre et à la soirée du 31 décembre. Le 23 décembre, un petit peu exceptionnel, on est invité, et moi je vous invite vraiment, si vous êtes là, à faire cette démarche. C'est le soir du réveillon, oui. 24, j'ai dit 23, excusez-moi. Oui, c'est 24, c'est juste. Excusez-moi, c'est le 24 décembre, le soir du réveillon. Hein, ça parle à tout le monde, ça, comme ça. C'est pour ça que vous n'êtes pas trompés. Hein, soir du réveillon. 19h-20h, un petit temps de lecture, de prière, de célébration de Noël à Crossroads. Crossroads nous a invités. C'est intéressant, Crossroads nous a invités pour avoir une partie en français. Moi, je dis merci Seigneur, parce qu'il y a des années qu'on prie pour que Crossroads vienne dans nos réunions en français, et ils nous invitent, nous, à aller chez eux. Alors moi, je vous invite à prendre une heure de temps, 19h-20h. On sait, c'est toujours long le départ de la soirée, du réveillon. C'est bien, 19h-20h. On vous le redira dimanche prochain, mais si quelques personnes pouvaient se joindre à Crossroads, ça serait super sympa. En tout cas, il y aura quelqu'un de chez nous qui participera, en tout cas officiellement, pour cette animation aussi. C'est une invitation, donc on veut aussi l'honorer, bien sûr. Et puis la soirée du 31 décembre, il y aura quelque chose qui se fera ici. On ne sait pas sous quelle forme, on ne sait pas quoi. Pour ça, vous demandez à Pierre, c'est Pierre et Déborah qui prennent ça en charge. Donc allez vers eux, et on ne veut pas que personne... qu'il y ait une personne qui reste seule ce 31 décembre. C'est exclu, donc il y aura quelque chose ici, s'il n'y a pas cette place chez Pierre, n'importe où, c'est lui qui gère ça. Donc voilà, merci en tout cas pour ce temps. J'en arrive, et c'est vrai que c'est à la suite de mon message, mais j'en arrive aux personnes pour lesquelles il faut vraiment compris parce qu'elles souffrent. On a beaucoup de personnes, et je vous invite vraiment pendant cette semaine à prendre du temps pour prier. Je remettrai de nouveau sur le site la liste complète des personnes pour lesquelles il faut prier. Je vais parler en quelques mots de Thiago, donc Thiago, le préfère de Lydia, a eu un accident de cheval où il a percuté à très grande vitesse un arbre. Il a de multiples fractures du crâne et les poumons perforés, les côtes. Il est dans un état très très critique. Pierrick nous a mis un mail cette nuit en nous disant qu'il semblait que le pronostic vital n'était plus engagé. Mais c'est très difficile, et vous imaginez que Paraguay, qui est un pays tiers-monde, les soins ne sont pas ceux qui sont non plus chez nous. Donc on peut vraiment prier pour les parents, pour Gilberto et Edmeia que vous connaissez, pour toute la famille là-bas. C'est vraiment, vraiment important, et aussi pour Pierrick et Lydia qui se réjouissaient d'aller passer un Noël tous ensemble au Paraguay. Donc un moment de prière pour eux. Des nouvelles d'Hélène et de Brian. Hélène devait rentrer en début de semaine et puis il y a eu des complications. Elle a une grosse infection et elle doit rester encore pour l'instant à l'hôpital, en tout cas cette semaine. Donc on veut aussi continuer à prier pour Brian et Hélène. Guylaine et Jacques. Guylaine donc est rentrée à la maison. Elle m'a dit hier, ça va tout doux. Elle m'a dit de bien vous remercier parce qu'elle compte vraiment, elle continue à compter sur vos prières. Elle dit, j'en ai besoin parce que ça m'aide à remonter. Puis Jacques va pour le mieux, mais elle m'a dit, tant qu'il est dehors et qu'il peut courir dehors, ça lui va très bien. Donc voilà. Donc on veut prier aussi pour les deux. C'est important aussi. Et puis un petit coup de téléphone, ça leur fera plaisir. Dans la suite des personnes à qui on veut penser, il y a aussi Mariano, le papa de Nelly, qui devait être opéré mais qui n'a pas été opéré. Il sera opéré en deux fois parce que c'est délicat aussi, une partie cette semaine et une partie quand il sera remis de sa première opération. Donc on veut aussi prier pour Mariano et pour toute la famille ici. On veut continuer à prier pour Rachel qui n'est pas bien du tout. Si elle n'est pas là, c'est aussi parce qu'elle n'est pas bien et elle a des complications avec les reins. On veut continuer à prier pour Rachel aussi. J'aimerais remettre à vos prières la famille Morand. On vous donnera des explications plus complètes, mais juste pour vous informer, Jean-Michel est parti lundi en Afrique, pour en tout cas 3 mois, pour faire le point aussi et être pris en charge, pour remettre, essayer de le remettre un petit peu dans un circuit qui soit un circuit normal de vie. Il reste à s'occuper d'Anna et de la famille, et on veut vraiment prier pour que ça puisse être fait dans les meilleures conditions pour eux et en penser à eux. Mais vraiment prier aussi pour eux, c'est important. Et puis, j'arrive au bout. Moi, je veux me réjouir que Mike soit là parmi nous. Et je veux dire, combien on pense à toi, tu le sais, mais combien on pense à toi, combien on est heureux, combien on veut te porter pour ton retour ce soir, qui n'est pas évident, et pour les semaines qui restent. En tout cas, tu pars avec nos bénédictions et nos encouragements. Dieu vraiment t'accompagne, Mike. On est heureux que tu sois là et tu ne sois pas planqué au fond, mais devant, c'est chouette. Merci en tout cas. Voilà, j'ai oublié quelque chose. Oui, Anne-Marie, ah, bien sûr, je n'ai pas oublié, mais j'allais le finir avec ça. Là-bas au fond, on va tout de suite dégager un petit peu le fond. Il y a deux tables sur lesquelles il y a plein de petits cadeaux, petites choses pour Noël, des petits centres de table, des bougies, des choses comme ça. Il y a même des choses à manger qui m'ont pas l'air mauvaises du tout. C'est tout fabriqué par des gens de l'Église et c'est pour le bénéfice des chrétiens de Syrie. Voilà. Je confondais avec celle, excuse-moi. C'est toute une action avec porte ouverte. Donc, ça sera l'argent leur sera entièrement remis, point. L'Église ne garde rien là-dedans, c'est clair. Mais ça soit bien clair, c'est vraiment pour une bonne œuvre. Alors, allez-y, c'est à des prix cassés, vous n'avez jamais vu comme ça. Profitez, c'est super bon. Tout le monde y a mis son cœur. Il faut qu'il n'y ait rien qui reste. Voilà, c'est clair, le message est passé. Prenez du temps. Je vous invite à vous lever. Et je vous lirai, toujours dans l'épître de Pierre, quelques mots qui sont à la fin de cette épître, donc que Pierre envoie aux chrétiens dispersés dans tout le monde, à nous donc. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, soyez fermes dans la foi, sachant que les souffrances qui vous sont imposées, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde de partout. Le Dieu de toute grâce, qui en Christ vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous ayez un peu souffert, un peu de temps, vous fortifiera lui-même, vous affermira, vous rendra inébranlable. À lui la puissance, au siècle des siècles. Amen. Dieu vous bénisse abondamment et bonne semaine à chacun.